soir, la 7e édition du Forum Africa CEO sur les marchés uniques africains, organisé pendant 2 jours à Kigali au Rwanda, s'est clôturée hier mardi. S'exprimant sur la question énergétique, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a indiqué que l'eau et l'électricité restent une bataille à gagner par tous les moyens disponibles en RDC pour ses propres intérêts, mais aussi ceux des partenaires africains. Quelle analyse faire de la déclaration du chef de l'État congolais? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 27 mars 2019. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Al Kitenge, il est analyste économique et stratège. Al Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Kelly.
Israël Moutala, journaliste et analyste politique et économique. Bonsoir Israël Moutala.
Bonsoir Kelly.
Et Augustin Mangemossi, il est enseignant et géopolitologue. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vous êtes très nombreux, vous auditeurs de Radio Capi, à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Chris Pellerini Munanga depuis Kananga au Kasaï Central. Cette déclaration est bonne, mais elle ne doit pas rester une simple déclaration. Il faut qu'il y ait une mise en place des mécanismes pouvant faciliter sa réalisation, car dans le monde actuel, l'électricité est devenue l'un des facteurs de la croissance économique et notre pays en a besoin. Merci de nous suivre à Kananga dans la province du Kasaï Central sur la 93.0 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
L'eau et l'électricité restent une bataille à gagner par tous les moyens disponibles en République démocratique du Congo pour ses propres intérêts, mais aussi ceux de ses partenaires pays africains. C'est ce qu'a déclaré hier mardi à Kigali le président Félix-Antoine Tshisekedi lors de la 7e édition de l'Africa CEO Forum tenu dans la capitale rwandaise. Ces travaux des 2 jours clôturés hier mardi visaient à créer un marché unique en Afrique. Une centaine de délégués de tous les pays africains y ont pris part. On écoute un extrait de la réponse du président Félix-Antoine Tshisekedi répondant aux questions des participants par rapport à la problématique de l'eau et de l'électricité pour la RDC et ses partenaires africains.
Je pense que si Inga se développe dans toutes ses phases, donc jusqu'à la phase 8, nous aurons 44 000 mégawatts à fournir. D'autre part, nous avons plus de 200 sites à l'intérieur du Congo qui peuvent également fournir de l'énergie. À peu près mis ensemble, on arriverait à 60 000 mégawatts. Donc vous voyez qu'il y a d'énormes possibilités. Au sujet de l'eau, qui est aussi une des batailles à venir, on peut réfléchir à des solutions du style au niveau de l'embouchure, juste un petit peu avant la rencontre avec les eaux de l'océan. Il y a moyen de capter cette eau du fleuve et de l'envoyer via des pipelines à des pays qui en ont besoin. On a proposé à un moment donné au Tchad le fait de dévier le fleuve Ubangi, ce qui va avoir des conséquences. Donc, nous pensons qu'il y a d'autres solutions et la RDC est prête à les proposer à ses partenaires africains pour réussir cette intégration qui nous tient tant à cœur.
Merci Jean-Noël Mokondo Al Kitenge. Je rappelle que vous êtes analyste économique et stratège. La 7e édition du Forum Africa CEO s'est clôturée hier à Kigali au Rwanda. Plusieurs personnalités étaient présentes à ce forum. D'abord, qu'est-ce que vous pensez Al Kitenge de la mise en place d'un marché unique africain?
Merci beaucoup Kelly. Je voudrais tirer un chapeau bas pour le Rwanda et pour la ville de Kigali, la capitale, pour avoir organisé avec brio ce forum. J'espère qu'un jour, et ce sera très bientôt, que la République démocratique du Congo pourra, dans le cadre de sa diplomatie économique, être en mesure d'organiser des forums de ce niveau. Par contre, par rapport à votre question, celle du marché unique en Afrique, je voudrais simplement vous dire que la plupart des pays africains, dont la République démocratique du Congo, est un pays, sont des pays pauvres. Ça veut dire qu'en fait, leur chance est dans la mise en commun d'un certain nombre de leurs atouts. Et donc, trop petits pour survivre, trop gros pour tomber. Ça veut dire qu'en réalité, il est important que nous mutualisions les moyens et que nous ayons des politiques cohérentes, que nous ayons un marché sur lequel nous pouvons commercer avec aisance, et ça nous permettra de nous décoloniser par rapport au monde. L'Europe l'a fait, l'Amérique a la taille qu'il faut, la Chine a la taille qu'il faut, l'Afrique ne peut résister que si nous sommes en un bloc.
Alors ce marché unique, vous pensez que ça aura des avantages pour c'est avantageux pour les pays africains, Alkitenge?
Nous parlons d'un marché unique africain qui pourra nous permettre de faire du commerce entre nous. Je voudrais simplement vous dire qu'à ce jour, il y a plus d'échanges avec les autres continents qu'il y en a sur le continent africain entre nous. C'est complètement ridicule. Ça voudrait dire simplement que, en temps réel et tout le temps, nous sommes en train d'expédier le peu de revenus que nous avons sur le continent vers l'extérieur. Souvenez-vous qu'il y a deux manières de faire partir les capitaux. La première, c'est en important les biens. La deuxième, ce sont les fraudes dont les entreprises internationales sont les championnes.
Alors, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part à ce forum. Il a évoqué plusieurs questions sécuritaires, économiques, entre autres énergétiques. Alors, parlons des énergies, il a dit ceci, je répète, l'électricité reste une bataille à gagner par tous les moyens disponibles en République démocratique du Congo pour ses propres intérêts, mais aussi ceux de ses partenaires pays africains. Comment vous analysez cette déclaration du président?
Les déclarations du président tombent bien à propos. Il parle bien d'une bataille à gagner, celle de l'eau et de l'énergie. Mais je voudrais dire qu'avant de gagner la bataille de l'eau et de l'énergie, il doit gagner la guerre de la paix. Il est très important de se rendre compte que la partie est de la République démocratique du Congo a trop souffert. Et la République démocratique du Congo a ses responsabilités là-dedans. Il est très important que toute son énergie soit mise à la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo, ce qui lui permettrait de s'occuper de manière viable du reste. Moi, je pense simplement que tant que la République démocratique du Congo n'est pas une et unique, que nous ne vivons pas les mêmes réalités sur toute l'étendue de la République, il nous sera très difficile de pouvoir discuter avec les autres partenaires, qu'ils soient des partenaires qui sont voisins du point de vue limitrophes, mais également les partenaires qui sont de l'extérieur, qui ont un impact très négatif sur notre pays. Revenant sur l'énergie et sur l'eau, je voudrais dire simplement qu'il serait très important que le chef de l'État s'appuie sur les scientifiques congolais pour être en mesure de tirer des leçons de tout ce que pourrait avoir comme impact la déviation de l'eau, d'où que ce soit. Je voudrais qu'il prenne tout l'éclairage scientifique nécessaire avant de prendre les décisions politiques et économiques qui s'imposent. Nous devons de l'ouverture au monde entier, c'est un devoir de géostratégie, mais nous devons être très prudents par rapport aux impacts sur les perturbations climatiques. Quant à l'énergie, nous avons près de 110 000, 120 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique en dollars. Ça voudrait dire à peu près 80 à 85 milliards de dollars de revenus annuels potentiels sur lesquels nous sommes assis, toutes pertes mises ensemble. Mais je voudrais simplement vous dire aussi que nous sommes assis sur à peu près 80 000 mégawatts de potentiel solaire. Il est important que tout ce patrimoine que nous avons soit mis de manière cohérente dans une stratégie. La stratégie ne devrait pas être celle de commencer par mettre en place des instruments ou des infrastructures de production, mais commencer par faire ce que la République démocratique du Congo a comme chance de mettre en place un WWE, ça veut dire World Wide Energy. Ça veut dire le réseau international est interconnecté de l'énergie, peut partir de chez nous et nous en avons le potentiel. Si nous conquérons l'Afrique, nous conquérons le monde.
Alors, par rapport à l'eau, Al Kitenge, le chef de l'État a dit qu'on pourrait partir de l'embouchure juste un petit peu avant la rencontre avec les eaux de l'océan. Il y a moyen de capter cette eau du fleuve et de l'envoyer via des pipelines à des pays qui en ont besoin plutôt que d'aller dans ce cas proposé à un moment donné au Tchad, c'est-à-dire le fait de dévier le fleuve Oubangui qui va avoir des conséquences. Est-ce que cette proposition du président n'est pas bonne?
Cette proposition est largement supérieure à tout risque de prendre les eaux d'Oubangui pour être en mesure d'être déviées. Et il est important que nous soyons, nous, à la base d'une solution. Je vois la main du professeur Mossibono, qui est un des très proches conseillers du chef de l'État, et je pense simplement qu'il faudrait multiplier les recherches sur toutes les simulations, et aujourd'hui l'intelligence artificielle permet de faire des simulations pour savoir quel est le point où nous prenons avec le moins d'impact possible de l'eau pour être en mesure d'alimenter le monde. Et encore une fois, est-ce que c'est l'embouchure, et à quel point de l'embouchure exactement? Je souhaite que nous nous entourions de toutes les connaissances scientifiques et que les scientifique congolais soit à la tête du leadership. Cette question n'a aucune importance du point de vue politique si nous ne prenons pas en compte les contraintes climatiques qui peuvent être extrêmement dangereuses. Et donc je suggère que le chef de l'État s'appuie de manière permanente sur les scientifiques congolais et que ceux-ci s'associent avec les centres de recherche internationaux pour que nous prenions des décisions sages et qu'il y ait le moins possible d'impact sur l'écologie et sur les dangers climatiques.
Merci à le Kitenge, Israël Moutala, journaliste et analyste politique et économique. Israël, comment, qu'est-ce que vous pensez de la mise en place ou de la création de la zone de libre-échange continentale hein?
Bon, tout ce qui favorise les échanges commerciaux, c'est bien à prendre. Il faut toujours les prendre, mais on les prend pourquoi ? Comment est-ce qu'on s'intègre dans un cadre multilatéral d'échange ? C'est ça la question. En temps de paix, on se bombarde avec les marchandises, donc ça veut dire les biens et les services. En temps de guerre, ce sont les obus. Et donc on peut considérer que nous sommes en temps de paix, et qu'il faut commercer avec l'ensemble du monde, le reste de l'Afrique et tout ça. Mais pour ça, il faut produire. Parce qu'on ne va pas faire de la RDC un marché de bientôt 5 millions d'habitants, un déversoir de tous les produits manufacturés de pays limitrophes et même au-delà. Donc notre stratégie, c'est de voir comment est-ce qu'on s'ouvre au monde. Pourquoi on s'ouvre au monde? Il ne faut pas qu'on s'ouvre au monde bêtement. Parce qu'en s'ouvrant au monde bêtement, ce sont des emplois que nous allons tuer, ce sont des industries que nous allons étouffer. Donc il faut savoir d'abord que nous devons penser d'abord à une autonomie, à une économie d'autosuffisance d'abord. Voir tout ce qui peut être produit ici de manière compétitive, de manière optimale, à moindre coût. Parce que plus nous avons d'entreprises de transformation sur place, plus nous créons de la richesse, plus nous donnons de l'emploi à nos populations. Et donc nous créons les conditions d'une stabilité économique et d'une prospérité collective. Donc, on ne sera pas là à importer. Donc, c'est une question justement importante, c'est vrai. Il faut s'ouvrir au monde. Mais pour s'ouvrir au monde, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir.
RDC va donner?
Absolument.
Qu'est-ce qu'elle va recevoir?
Vous allez vous ouvrir au monde pour donner quoi? Vous allez vous ouvrir au monde pour recevoir quoi? Et en matière de réception, il faut faire en sorte que vous ne recevez pas tout. Il faut produire abondamment sur place. Mais sinon, il faut s'ouvrir au monde. Mais nous sommes nous-mêmes déjà, on l'a toujours dit, nous sommes à nous seuls, nous sommes déjà un grand marché qui n'est pas interconnecté. Donc pour moi, la priorité des priorités, c'est l'interconnexion justement de toutes les 26 provinces. Et même au sein des 26 provinces, c'est faire en sorte que les coins les plus reculés soient interconnectés. C'est toujours aberrant aujourd'hui qu'on ne soit pas en mesure de quitter Kinshasa en camion ou en bus pour atteindre Goma, ramener de la viande fraîche ou ramener des choux. Donc c'est voilà. Pour moi, la bataille stratégique de la RDC, c'est d'abord l'interconnexion des provinces et l'interconnexion des territoires au sein des provinces. C'est ça pour moi, relier les milieux ruraux aux grands centres intérieurs.
Les infrastructures routières.
Absolument. Et donc, quand on fera ça, on dégage une marche, on aura un marché unifié et ce marché sera encore plus attractif. Ça veut dire que, et par rapport à ça, on négociera en tant que pays très cher les droits d'entrée des marchandises et de biens dans notre économie.
Et donc vous estimez que pour le moment la RDC ne peut pas ou ne doit pas s'aventurer ne doit pas aller dans cette aventure quoi, parce qu'on n'a pas assez d'infrastructures routières.
Non, elle va y aller, elle signe par principe, mais parce que ce sont des accords c'est vrai quand on signe l'accord sur le marché de libre échange africain, mais c'est des produits vous continuez ce sont des négociations dans le cadre multilatéral, mais ce n'est pas l'ouverture totale des frontières. Donc vous allez dire non à cette étape de notre économie, les produits que nous pouvons importer ou accepter d'entrer dans notre pays, c'est telle catégorie de produits. On a encore la main. Mais la meilleure de stratégie, c'est d'abord d'épuiser nous-mêmes toutes les potentialités du marché local, de l'élargir, d'avoir une base commerciale large, épaisse et solide avant de s'ouvrir au monde. parce qu'on ne peut pas, en tant que puissance économique, en tant que future puissance économique du continent africain, s'ouvrir. Les réticences du Nigeria à signer cet accord de libre-échange africain vont dans ce sens-là. Les Nigériens estiment qu'ils sont une puissance économique, ils ont un marché fort, ils vont pas signer pour le plaisir de signer. Donc ils veulent d'abord protéger leurs propres intérêts avant de se lancer à la comment dirais-je, à l'assaut de l'Afrique. Par contre,
est-ce que c'est clair de ce qu'ils devraient faire aussi?
Un État comme l'Afrique du Sud, qui produit beaucoup, qui produit tous les produits, plusieurs gammes de produits, a tout intérêt à élargir son marché. Ça veut dire que l'Afrique, c'est des centaines de millions d'habitants. Et donc, avoir accès à ce marché-là, pour l'Afrique du Sud, c'est un gain. Parce qu'elle a de quoi, justement, comme produit à expédier dans les différentes zones de l'Afrique.
Alors, la RDC aussi a des produits à expédier. L'électricité, par exemple.
Non, pour l'instant, nous sommes en déficit. Nous importons de l'électricité. Nous l'importons du Congo-Brazzaville. Voilà, nous ne sommes pas encore en mesure d'exporter l'électricité. Inga, dont le président a parlé, Inga 3, on n'a pas encore bouclé le financement parce que le projet a été redimensionné. On est en train de faire, je crois, le tour des bailleurs pour trouver des nouveaux acheteurs potentiels parce qu'on a porté la capacité de 4800 MW à plus ou moins 11 000 MW. Il faut d'abord trouver des acheteurs potentiels et dès qu'on aura bouclé les acheteurs potentiels, lever des fonds et commencer Inga 3, voilà. Donc pour l'instant, on n'a rien à proposer au monde. Ce que nous proposons au monde essentiellement, c'est des produits miniers faiblement, comment dirais-je, transformés. Voilà, c'est ce que nous produisons. Et quand ça nous revient ici, ça nous revient avec une forte valeur ajoutée, ce qui fait que nous aurons des difficultés. Donc voilà toute la stratégie qui doit être mise en place, c'est comment faire pour que nous, en tant que pays, nous produisions sur place, nous transformions sur place pour exporter des produits à forte valeur ajoutée. Pas exporter du cuivre en Chine qui nous revient ici sous forme de câbles électriques, donc qui nous revient ici sous forme de plusieurs autres appareils. Donc c'est ça toute la stratégie.
Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que nous puissions produire sur place avant de nous ouvrir au monde?
Ben oui, justement, le président l'a dit tout à l'heure lui-même. Ça veut dire que quand vous suivez dans son discours, par exemple, son discours d'investiture, il a parlé de la question énergétique. Il a dit justement qu'il y a 217 sites de micro-barrages. Le potentiel de Inga hydroélectrique, c'est 110 mégawatts. Mais voilà, avec le Rwanda, il a envisagé à un moment la possibilité de co-gérer les potentialités du lac Kivu avec le gaz méthane dans un cadre qu'on appelle le contrat d'unitisation pour des gisements qui sont à cheval entre les deux pays. Parce que parfois, c'est ce que fait la nature. Quand on a tracé les frontières, en traçant la frontière, on ne savait pas que le gisement commençait en RDC et se prolongeait, par exemple, au Rwanda ou au Burundi. Donc, il y a des gisements qui sont transfrontaliers. Et ces gisements là-bas, on peut envisager une coopération transfrontalière sur ces gisements-là. Mais c'est vrai, nous avons été, en tant que pays, gâtés par la nature, que, à un moment, s'ils ne sont pas à mesure de développer toutes les potentialités que nous donnons, nous bloquons, nous freinons l'avenir de l'Afrique, et cela est impardonnable. Donc voilà, nous avons un défi par rapport à nous-mêmes, et un défi par rapport au reste du monde, et surtout par rapport au reste de l'Afrique, en termes d'eau douce, en termes d'énergie, en termes d'agriculture, en termes de minerais stratégiques, en termes d'environnement. Donc nous sommes un État à vocation d'être un État leader, un État pivot dans le concert des nations.
Merci Israël Moutala. La réalisation me signale qu'elle n'arrive toujours pas à joindre Augustin Mangemossi, enseignant et géopolitologue à Le Kitenge. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
C'est Flavien Vugachan depuis la ville de Bukavu. Les discours des chefs de l'État et ses voyages diplomatiques sont fondés vu la place qu'occupe la RDC par rapport à certains pays limitrophes. Par contre, les chefs de l'État devraient d'abord travailler sur la politique interne et la sécurité pour améliorer le climat des affaires.
Bon, cet auditeur vous rejoint un peu à Le Kitenge, dont on analyse tout à l'heure.
C'est exact et je vais en profiter pour ajouter un mot sur ce que Israël Moutala a si brillamment dit. Il est important de s'apercevoir d'une chose extrêmement importante.
On ne peut pas attendre. La transformation de la République démocratique du Congo en tant que pays va ensemble avec son intégration régionale. Je voudrais vous rappeler ici que quand vous allez disons, vers le sud du continent, il y a un trou noir, ça s'appelle la République démocratique du Congo. Avec des infrastructures régionales, nous aurons la possibilité de connecter le pays. Et donc, il faudrait que nous soyons en mesure de nous rendre compte que le développement de la RDC ne va pas en l'encontre du développement de l'Afrique et le développement de l'Afrique ne va pas en l'encontre du développement de la RDC. Donc, ça se fait en même temps. Il est important que notre intégration soit stratégiquement pensée. Deuxième chose, lorsque vous regardez l'économie de la République du Congo, il y en a deux. Il y a l'économie de l'Est et l'économie de l'Ouest. Et l'Ouest, c'est le Bandundu, le Kinshasa et le Bas-Congo. Et l'Est, c'est toute la partie du nord, du côté de Kisangani, jusque à la partie sud de l'Est. Et on a un gros trou noir qui s'appelle la partie centrale, l'ex-Kasaï, qui n'a absolument pas d'économie. Il est important qu'on unisse la partie Est de la partie Ouest. Ça doit être une approche extrêmement stratégique et elle est extrêmement importante. Et il est important qu'on fasse communiquer la partie nord avec la partie sud en allant dans une intégration nationale et régionale. Et donc, il est important qu'on s'aperçoive psychologiquement que ce n'est pas nous contre l'Afrique, c'est nous avec l'Afrique. Nous sommes une opportunité pour l'Afrique, l'Afrique est une opportunité pour nous. Maintenant, avec quel dynamisme, avec quel degré d'innovation nous travaillons, ça, c'est notre responsabilité. Et là, le chef de l'État a une opportunité majeure de ne pas commettre la même erreur que le régime passé, c'est de se doter d'un plan stratégique de développement qui, lui, est cohérent non seulement à l'intérieur, mais il est également cohérent sur le continent et dans le monde. Tout à l'heure, je parlais avec pertinence de quelque chose d'extrêmement important. Nous avons l'opportunité d'être à la base de ce que j'ai appelé le WWE. Ça veut dire qu'en fait, le réseau interconnecté et international de l'énergie. Nous avons le potentiel de répondre à un besoin qui est mondial. Ça nous permettra d'arrêter de commencer à chercher des acheteurs potentiels uniquement sur le continent. Mais la question aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir des potentiels parsemés. La question aujourd'hui, c'est d'avoir un réseau unique qui fait circuler l'énergie sur toute l'étendue de la République, qui le donne à celui qui veut l'avoir. Et aujourd'hui, le marché de l'énergie est un marché dynamique. Nous avons la chance d'avoir de l'énergie propre. Elle est demandée partout. Le monde entier est en train de se battre pour se débarrasser de l'énergie polluante et de l'énergie carbonée. Et nous avons la chance d'avoir de l'énergie propre, qu'elle soit solaire ou qu'elle soit hydroélectrique.
Alors, Al Kitenge, bon, je comprends que vous partagez le même point de vue que Israël Moutsala. La RDC aujourd'hui, à ce jour, on n'est pas prête à s'ouvrir à ce marché, si je vous comprends bien.
Non, j'ai dit le contraire. Je dis la RDC gagnerait à s'ouvrir à ce marché aujourd'hui.
Mais elle n'a rien à proposer pour le moment.
C'est ce que vous pensez. Regardez très bien, chaque fois que nous parlons d'investissement, nous parlons d'investissement direct et nous parlons d'investissement direct étranger. Il faut ouvrir notre marché pour que les capitaux viennent de partout dans le monde. Mais ça doit venir dans le cadre d'un plan stratégique qui est le nôtre. En restant dans la même situation, nous aurons les mêmes résultats, nous n'aurons toujours pas d'avancée. Il faut savoir que si nous nous référons sur nous-mêmes, ce sera la pire des choses. Nous resterons le trou noir sur le continent. Et tout à l'heure, j'expliquais la nécessité de pouvoir connecter le nord de l'Afrique au sud de l'Afrique et nous sommes le point bloquant. Je pense qu'en nous rendant fluide, on a l'impression qu'on pourra immédiatement perdre, mais dans un très court temps, nous aurons un dynamisme qui sera un dynamisme régional, un dynamisme organisé, un dynamisme qui est lié aux effets d'entraînement du fait que nous sommes dans un écosystème qui marche. Nous ne pouvons pas nous isoler et ce serait la plus mauvaise des choses, ce serait la pire des peurs. Aujourd'hui, vous savez, nous avons près de 40 à 45% des revenus qui viennent de douane. Mais nous ne pouvons pas aller dans une économie de la douane. Tous les pays du monde vivent de ce qu'on appelle le produit intérieur, ça veut dire la production intérieure. Nous, la première des choses que nous avons sur la main, et notre avantage comparatif, ce que nous pouvons donner au monde entier et au continent africain, c'est l'énergie. Battons-nous déjà pour être en mesure d'avoir de l'énergie. Si nous avons de l'énergie, nous pouvons transformer nos produits miniers. Parce qu'aujourd'hui, la seule raison pour laquelle nous ne transformons pas les produits miniers, c'est que nous n'avons pas d'énergie. Et il faut donc savoir se planifier de manière stratégique pour que nous sachions par quoi nous commençons et qu'est-ce qui donne les effets d'entraînement. Aujourd'hui, se bloquer en soi-même, ça veut dire en fait nous bloquer notre capacité à pouvoir développer ce que nous avons en avantage comparatif, et bien entendu, ne pas avoir de solution. Nous allons rester dans la même situation pendant très longtemps. Je voudrais vous rappeler, nous sommes parmi les pays les plus pauvres du monde par tête d'habitant.
Alors, mais l'énergie dont vous parlez, Al Kitenge, c'est quand même un projet à long terme, parce qu'il faudra relancer Inga 3, il faudra trouver des partenaires. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce que la RDC pourrait offrir?
Je voudrais vous rappeler que l'énergie hydroélectrique a ceci de particulier, c'est des projets modulaires. Ça veut dire que chaque fois qu'on installe une capacité, elle peut passer en production. Et je voudrais insister sur le fait qu'avant de penser à pouvoir produire, il faut penser au réseau de distribution. Ça a toujours été sa plus grosse difficulté. Et encore une fois, je voudrais redire quelque chose d'extrêmement important. Et il ne s'agit pas des Inga 3, il s'agit du grand Inga. Mais la seule façon de le faire, et il faut le faire tout de suite, c'est d'en faire un projet international. C'est en voulant contrôler Inga en tant que société nationale que nous avons aujourd'hui 100% de zéro et ce n'est pas très intelligent collectivement. Il est donc important qu'on s'aperçoive qu'on a un potentiel qu'on ne peut pas développer tout seul parce que nous n'avons pas la technologie ou nous n'avons pas l'argent. Il faut s'ouvrir et en faire un projet international et le projet hydroélectrique de la République démocratique du Congo, avec sa taille et ses spécificités, ne peut être qu'un projet international et il faut avoir le courage de le verser dans le marché international sous notre leadership. Il faut le penser, si nous ne le pensons pas, on nous le prendra.
Merci Al Kitenge, Israël Moutala. On a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu.
Robert Mohamed de Bukavu, au sud de Kiv. En soi, la déclaration du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, n'est pas mauvaise. Mais déclarer est une chose, concrétiser une déclaration en est une autre. Je me demande avec quelle politique énergétique la RDC pourrait faire face à l'épineuse question d'énergie, quoique disposant des atouts énormes dans ce secteur. À mon avis, il faudrait nécessairement que la RDC définisse d'abord de manière claire et cohérente une politique dans le domaine de l'énergie pour pouvoir batailler dur pour ses propres intérêts. Sinon, ses intérêts reviendraient toujours à ses partenaires africains, et même d'ailleurs. À titre illustratif, l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu reste aujourd'hui exclusive et bénéfique au Rwanda, pendant que ce lac est une propriété naturelle à la fois du Rwanda et de la RDC.
Israël.
Merci de la question. Ça veut dire que, en écoutant le chef de l'État, il était en tout cas très au fait de la question. Même quand je relis aujourd'hui son discours d'investiture, il a donné des chiffres intéressants. Il a dit que pour lui, il faut que d'ici que le taux que Inga 2,6% de potentiel est exploité de notre potentiel hydroélectrique qui est à 100 000 mégawatts, il faudrait passer d'ici 10 ans à 50%, a dit le chef de l'État lors de son discours d'investiture. Donc il est assez ambitieux. Il a donné même le taux d'accès. Il a dit que 9% de taux d'accès en électricité en RDC, c'est 9% contre une moyenne de 30% en Afrique subsaharienne et 80% au monde. Donc il a dit des choses intéressantes. Il a dit notamment que le déficit énergétique impacte notre productivité. Donc il a parlé de beaucoup de choses. Ça veut dire que vous avez vu que ça veut dire que c'était un discours assez de quelqu'un qui est au fait de la problématique du déficit énergétique. Alors comment justement résoudre cette problématique? Al a si bien dit tout à l'heure, d'abord c'est de faire de Inga, qui est ce joyau national, Inga c'est de l'énergie propre, c'est de la richesse potentielle inouïe que nous avons à portée de main, mais soyons intelligents pour faire un montage financier intelligent pour faire pour attirer des constructeurs de projets qui ont de l'expérience en termes en bâtiment, en génie électrique et tout ça. Donc voilà, nous avons un joyau entre nos mains. Donc si on gère Inga avec tous les sérieux du monde, je pense que on peut concrétiser on peut résoudre cette crise de déficit énergétique. Mais à côté d'Inga, vous avez dit aussi justement la question du gaz méthane. Mais le gaz méthane aussi, non seulement c'est une source d'énergie, mais c'est aussi un danger. Le gaz méthane a déjà tué, je crois, à peu près 30 000 personnes. Au Cameroun, il y a eu une explosion parce que quand il y a une forte concentration de ce gaz, il peut devenir mortel pour les humains. Il peut engendrer des explosions et des gaz toxiques peuvent émaner et tuer des populations civiles. Donc nous avons le devoir justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas une concentration de ce gaz qui pourrait justement causer un drame humanitaire. Et pour terminer, la question justement de l'énergie, parce que l'énergie, il n'y a pas que l'électricité, il y a aussi l'eau. Donc le fait qu'on envisage justement la captation d'une partie d'eau douce pour l'exporter au Tchad, c'est aussi une possibilité de concrétiser rapidement. Le fait déjà qu'on ait levé l'option de prendre cette eau, non pas en amont, mais en aval, du point le plus proche de l'embouchure, c'est déjà une excellente chose. Parce que c'est de l'eau douce qui se déverse dans de l'eau salée et qui va à perte. Et donc si cette eau douce peut servir à vivifier le lac Tchad et d'autres espaces désertiques, c'est une excellente chose. Ce sont des sources sûres de rentrée de devises. Mais comme l'a dit encore pertinemment Al Kitenge, il faut absolument des études d'impact environnemental assez pointues pour que il n'y ait pas de perturbations climatiques. Pour moi, je pense que c'est de la volonté, et cette volonté viendra du fait que on attire des investisseurs sérieux. Les capitaux, il y en a. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans un monde qui manque de capitaux. Les capitaux sont là, il faut savoir les attirer. Il y en a à la bourse de Toronto, il y en a à la bourse de Londres, il y en a sur toutes les places boursières, il y a des capitaux. Le problème, c'est de monter des projets bancables, des projets sérieux, avec une bonne gouvernance, avec un meilleur climat d'affaires. On peut faire des miracles avec ce pays, avec son potentiel énergétique.
Merci Israël Moutala. La réalisation, on me signale que Augustin Mangemossi est en ligne. Vous êtes en ligne, monsieur Mangemossi?
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes enseignant et géopolitologue. Vous avez suivi, j'imagine, les interventions d'Israël Moutala et Al Kitenge. Je voudrais vous poser d'abord la première question, celle de savoir qu'est-ce que vous pensez de la mise en place d'un marché unique africain. Est-ce que c'est important?
Oui, écoutez, pour la mise en place d'un marché unique, ce n'est pas encore important pour la RDC. Il y a un intervenant qui a parlé tout à l'heure là. Voyez-vous même la géopolitique mondiale. Vous voyez la Chine. Vous voyez la guerre économique entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Voyez au jour d'aujourd'hui, il y a moins de 3 jours, cette guerre économique entre l'Union européenne et la Chine. Tout cela montre que nous avons un problème sérieux dans la gouvernance mondiale. C'est quoi? C'est le protectionnisme. De l'autre côté, là où la mondialisation a commencé, ils sont maintenant en train de se barricader, de créer des sortes de barrières pour se protéger. Voyez-vous même l'histoire de la Chine. La Chine s'est enfermée pendant près de 50 ans pour sauver à la mondialisation après avoir travaillé son énergie sur le plan interne. Alors, la République démocratique du Congo, qui est au centre de l'Afrique, ne peut pas au jour d'aujourd'hui s'ouvrir rapidement, sans pourtant savoir avec quoi elle va s'ouvrir. Nous allons nous ouvrir avec quoi? Tout le problème, c'est quoi? Nous avons les potentialités, que ce soit en eau ou en électricité, mais le problème, c'est que ces potentialités ne sont pas valorisées. Ces potentialités ne sont pas encore estimées, chiffrées convenablement. Commençons d'abord par inventorier ces potentialités, comme un ami a parlé tout à l'heure là, chercher le moyen de les valoriser, et c'est alors que nous allons nous ouvrir à ce marché qui, on le veut bien, pour l'intégration de l'Afrique, mais nous ne sommes pas encore, nous n'avons pas les moyens de pouvoir concurrencer déjà ceux qui ont un ou deux pas en avant que nous devons nous conscientiser d'abord, nous préparer à l'interne avant de sortir. Le chef de l'État a parlé à Kigali. Moi, je vous dis que c'était un message que j'ai applaudi de demain. Pourquoi? Parce qu'il a été clair. Il a dit qu'on ne pouvait tirer l'eau que au confin de la Mouchire, pas à Lubangui. Ça, c'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire la vision est tracée. Que nous n'allons pas admettre qu'on puisse vendre l'eau du Congo partant de l'Équateur, de Lubangui, plutôt vers l'embouchure du fleuve Congo. Ça, c'est une bonne chose. Mais maintenant, par rapport au marché, ce qui est vrai, tout à fait normal, l'intégration de l'Afrique ne peut commencer pas que par la RDC. Vous voyez, nous sommes juste au milieu entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. C'est une bonne chose pour nous. Les routes pour s'ouvrir ne viendraient que de la RDC. Mais posez-vous même la question, quand est-ce que la RDC a commencé à construire ses propres routes montrer la voie. C'est maintenant au gouvernement congolais de pouvoir matérialiser la vision du chef de l'État.
Alors, monsieur Augustin Manguemo, si vous nous rejoignez presque à 10 minutes de la fin de l'émission, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient aussi de Bukavu.
La déclaration du chef de l'État est non seulement salutaire, mais aussi trop responsable, à la mesure où le développement interrégional reste un atout pour l'émergence de l'ARD. Car aucun pays du monde ne peut pas s'assurer à lui seul. Mandat, tout ce que le pays ne peut pas rester une lettre morte. Comme on l'a toujours vu avec les anciens régimes, on a vu le président de la République devrait mettre les pieds sur l'accélérateur en vue de mise en œuvre rapide de cette intégration importante pour la nation. Mais tout en commençant par son propre pays, par l'eau et l'électricité, sont des facteurs majeurs de la croissance économique dans un état de l'économie.
Allô, M. Manguemo, si vous êtes en ligne?
Je suis en ligne.
Alors, vous avez suivi cet auditeur de Bukavu?
Oui.
Vous avez suivi sa préoccupation ou sa réaction, son point de vue?
Oui. L'auditeur a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Au fait, c'est par là qu'on doit commencer. Nous avons des atouts, des potentialités. Si déjà le chef de l'État a commencé à comprendre ce que nous devons faire, c'est à nous de le faire. Il a totalement raison.
Alors vous estimez que ce n'est pas important pour la RDC de s'ouvrir pour l'instant quoi à l'Afrique? On devrait d'abord commencer le travail chez nous, mais l'auditeur estime que le chef de l'État devrait mettre les pieds sur l'accélérateur en vue d'une mise en œuvre rapide de cette intégration.
Oui, vous avez tout à fait raison. Je ne dis pas que je suis contre. Madame, je dois d'abord vous rappeler que la RDC s'est déjà ouverte à la mondialisation ou au monde depuis 1985, à l'époque même de l'État indépendant du Congo. Vous savez vous-même que nous sommes un espace de libre-échange, un marché qui a été construit pour la mondialisation. Ça, on est déjà ouverte. Le problème, c'est pas que je suis contre. Le problème, c'est que je vous ai dit avec quels moyens on va y aller. Tous les problèmes, ce sont les moyens. Pour le chef de l'État, ce n'est qu'une vision. Une vision qui doit être matérialisée avec du concret. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'eau, oh que c'est bien. Nous avons l'électricité, oh que c'est bien. Comment les valoriser? Le problème, c'est à ce niveau-là. Comment les valoriser? Je vous donne un exemple. Il y a de l'argent qui est là pour tirer l'eau partant de Lubangi. Est-ce que c'est possible? Non. Ça peut créer des problèmes, hein, des catastrophes. Alors, est-ce que cet argent-là peut nous aider? Non. Non, c'est de l'argent empoisonné. Alors, trouvons maintenant de l'argent qui peut nous aider à puiser, à aider l'Afrique par temps de la Mouchir et non par temps de l'Ubangi. Ça, c'est un exemple. Je peux vous donner des exemples. Et il y a un ami qui tout à l'heure a dit que nous, on est encore déficitaire en termes d'électricité. Tout à fait raison, parce que nous importons un peu du courant. Mais est-ce, nous nous posons la question, quand est-ce que nous-mêmes nous allons nous autosuffire? Tout le problème, c'est ça, l'autosuffisance énergétique, ça quand? C'est ça le problème que le chef de l'État a déjà compris, il a balisé le chemin. Moi, je dis, nous ne pouvons nous ouvrir que après avoir valorisé, d'abord inventorié, valorisé, et ensuite aller au marché. On ne peut pas aller au marché le mal vide, madame. Je sais que vous êtes une dame. Vous savez, vous-même, pour aller au marché, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des moyens. On ne peut pas aller au marché main vide, on va là-bas, on dit non, parce qu'on va y aller, on va s'endetter. Non, qui s'endette, s'appauvrit. Tout le problème, c'est ça. Nous devons, dès à présent, comme le chef de l'État a intervenu, c'est une bonne chose. Ce qu'il faut, c'est maintenant concrétiser ce qu'il a projeté comme vision.
Alors, M. Manguemo, si, comment faire pour que la RDC puisse s'autosuffire avant de s'offrir aux autres, de s'ouvrir aux autres?
Oui, vous avez, il y a un intervenant qui nous a dit tout le temps qu'on avait les moyens de se construire une puissance. Vous devez savoir qu'on ne peut pas s'autoproclamer une puissance. Une puissance, c'est construit avec les moyens, avec les temps, avec une vision, avec de l'intrépidité. Le problème, est-ce qu'on est d'abord intrépide pour savoir quand est-ce qu'il faut marcher? Est-ce qu'il faut marcher d'ici 2020? Est-ce qu'il faut marcher d'ici 2030? Est-ce qu'il faut marcher d'ici 2050? Est-ce qu'on a les moyens? Potentiellement, on les a. Les moyens sont là. Mais est-ce qu'on a disponibilisé les moyens pour le faire? Ça, c'est non. Ça, c'est non. Il faut maintenant commencer par convoquer les états généraux de l'énergie. C'est là où les experts en la matière, ils vont faire des calculs pour disponibiliser les moyens pour nous permettre d'aller au marché, le marché compte pour nous tous. Avec, j'avais écrit au chef de l'État, j'ai écrit pour expliquer comment nous pouvons intégrer les marchés africains, à commencer par l'Afrique centrale, que j'appelle l'Afrique médiane,
merci,
de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Vous savez, le chef de l'État, il est
merci,
allé
chez
nos amis, le Kenya. Il a dit qu'on devrait, en temps normal, intégrer le marché de l'Afrique de l'Est.
Merci, monsieur Augustin Mangemo. Si nous sommes presque à la fin de l'émission, on retient que vous proposez que qu'on puisse convoquer les états généraux de l'énergie. Al Kitenge, votre conclusion, vous êtes partant lorsque monsieur Mangemo s'y propose les états généraux de l'énergie?
Monsieur Mangemo s'y dit une partie de la vérité. La grande vérité est de dire qu'il faut avoir un plan stratégique de développement. Il faut donc appeler les états généraux du développement qui auront la composante énergétique comme une des composantes du plan stratégique. Un pays qui se pilote à vue ne peut pas avoir des performances. Par contre, je voudrais l'apaiser, je peux comprendre, c'est un politologue, les questions qu'il aborde sont économiques. L'économie mondiale a deux composantes. Il y a la partie économique et la partie financière, et la partie financière est en train de se mondialiser. Même l'Europe et les États-Unis sont nourris aux mamelles de fonds de pension chinois.
Merci.
Nous devons simplement aller les chercher, être en mesure de les utiliser.
Merci Al Kitenge, Israël Moutala. Conclusion.
Ma conclusion, c'est que pas de développement sans énergie. Et donc, l'énergie, c'est la priorité des priorités. Pour moi, il y a deux axes prioritaires. C'est réussir les infrastructures routières pour interconnecter la RDC et l'énergie. Quand on a ces deux préalables, on peut envisager le développement.
Merci Israël Moutala, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Matedo, Namadimba Pele, Kipela Mondo. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la mise en onde au micro Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.